commencer, je voulais, on vous souhaitait remercier Blandine, Bril et Déborah Furet de nous avoir invités pour cette journée. Alors en fait, avec une des raisons pour lesquelles on a été invités, c'est qu'avec Laetitia, on s'intéresse, on est inscrit dans plusieurs projets, notamment qui sont soutenus par le rectorat de Paris et qui portent sur des questions de... C'est-à-dire que le rectorat nous a sollicité, la cellule TIS du rectorat de Paris nous a sollicité pour venir apporter notre contribution dans des projets relatifs à l'utilisation et à l'usage des tablettes tactiles dans les classes, en école primaire. Voilà. Et donc, on commence à avoir quelques résultats de données et puis c'est la raison pour laquelle on va faire une présentation. Alors, la problématique générale, hein, pour faire un peu scolaire, hein, comme dans les mémoires d'étudiants, hein, c'est de... notre question, c'est pas tant une question qui porte sur finalement ce qu'on apprend avec les tablettes, c'est souvent la question. Hein. Et dès qu'il y a des nouveaux instruments, on se pose la question, est-ce qu'on apprend mieux ou pas que si on a avec ces instruments-là. Notre question, c'est pas tant de savoir ce qu'on apprend ou comment on apprend, c'est plutôt ce que ces nouveaux instruments, on pourrait dire, dans leurs usages, vont générer comme pratique nouvelle chez les usagers et en l'occurrence chez les élèves. Hein. C'est-à-dire que, vous allez le voir, la question qu'on se pose, c'est en termes d'usage, qu'est-ce que ça permet de mettre en place comme nouveaux échanges entre les élèves éventuellement. D'ailleurs, c'est complètement dans la lignée de ce qui a été dit ce matin. Et puis même aussi, alors la deuxième question, c'est ce que ça permet de aussi, est-ce que ça suscite de nouvelles interventions, notamment en termes d'étayage de l'activité des élèves par les enseignants. Hein, c'est-à-dire, est-ce que les modalités d'intervention des enseignants auprès des étudiants qui utilisent ce type de dispositif sont différentes que lorsqu'elles se font à voie libre, par exemple. Alors, le plan d'exposé, il est assez binaire. Hein. Il y a deux études, donc voilà. Moi, je vous présenterai pour partie la première étude, hein, notamment le cadre théorique. Laetitia poursuivra, donc parlera plutôt des aspects empiriques, on va dire, hein, de la première étude et puis de la seconde. Et puis, je conclurai avec la synthèse. Alors... notre positionnement théorique, hein, pardonnez-moi si ça fait un peu court, mais c'est une déformation professionnelle peut-être, mais on se situe nous dans les travaux de Vygotsky, hein, psychologue russe, c'est-à-dire qu'on considère que finalement c'est au travers des échanges entre les individus que vont se faire, vont s'opérer des transactions sur le plan du fonctionnement de la pensée, sur le plan intellectuel. Hein, c'est ce qu'on appelle l'interactionnisme social. C'est l'idée selon laquelle eh bien, les processus éducatifs et puis de manière plus générale le développement des individus va se réaliser au travers des interactions avec l'environnement social des individus. Hein, c'est au travers des échanges avec son environnement. Donc ça suppose un certain nombre, c'est une posture qui appelle un certain nombre de positionnements. Le premier, c'est effectivement la position du langage, la fonction du langage, qui n'est plus seulement envisagée comme média ou outil au service de la communication, mais comme outil au service de la pensée. C'est-à-dire que la pensée se réalise au travers du langage oral, mais aussi du langage écrit. Et alors effectivement, en ce qui concerne les échanges, et nous c'est ce qui nous préoccupe ici, hein, c'est les échanges oraux, hein, qu'il peut y avoir entre les individus, et bien ces échanges effectivement dans ce cadre-là sont envisagés comme lieu de transaction de nouvelles connaissances. Alors ça a donné lieu par exemple à toute une série de travaux en sciences d'éducation sur ce qu'on appelle les débats argumentés. Hein, c'est un dispositif qui est mis en place et c'est l'idée et le pari en fait qu'on fait, c'est que il y a des choses qui vont se passer entre les élèves en termes au niveau des échanges par le biais de la confrontation avec l'argumentation, la contre-argumentation. Et du coup, ça change complètement la posture de l'enseignant. Alors là, j'arrive directement au quatrième point, c'est-à-dire que l'enseignant n'est plus celui qui transmet des connaissances qui vont s'accumuler dans l'esprit des élèves, mais l'enseignant, c'est plutôt celui, il y a un pas de côté, quoi. C'est celui qui va mettre en place des situations d'échange entre les élèves. Et nous, en l'occurrence, ce qui va nous intéresser ici, c'est la mise en place de situations qui sont dites instrumentées, c'est-à-dire qui font appel à des instruments, et en l'occurrence, des tablettes tactiles. Et ce qui nous intéresse, alors on le verra, c'est un peu l'objet des deux études, c'est le troisième point ici, c'est tout le jeu des interactions dites symétriques, c'est-à-dire les symétriques entre élèves, quand il y a une symétrie d'expertise entre les élèves par rapport à la tâche proposée, et puis toutes les situations d'interaction dites asymétriques, maître-élève par exemple, et c'est nous ces aspects-là qu'on va vraiment étudier. On a cité Lydia Ploman, parce que pour montrer qu'on s'inscrit vraiment dans la qu'on s'inscrit vraiment dans la même lignée, c'est-à-dire effectivement le focus, si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas notre centre d'intérêt, c'est pas tant ce que les élèves apprennent effectivement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est finalement les interactions que ça va permettre de générer, de mettre en place entre les utilisateurs, que ce soit les élèves ou l'enseignant auprès de ses élèves, et puis ce que ces interactions finalement en retour, par un jeu de balancier, ce que ces interactions nouvelles vont permettre, est-ce qu'elles vont permettre de quel potentiel elles vont apporter à l'utilisation de ces nouveaux instruments. Vous voyez, il y a un jeu de, en gros, qu'est-ce que ça permet de générer, et puis la génération de ces nouvelles interactions, ces nouveaux échanges, comment ils vont, j'allais dire, permettre d'exploiter l'utilisation de ces nouveaux outils. Voilà. Donc en gros, c'est ça, on est vraiment ici. C'est on n'est pas sur des aspects interaction homme-machine, sur la dimension fonctionnelle des usages, mais vraiment sur la question de la contribution des interactions au processus de formation de compétences et de construction de connaissances dans ce type de situation. On est vraiment là. On s'intéresse aux individus, aux groupes d'individus. Enfin, on verra en exemple les exemples qu'on va pouvoir vous donner. Et alors tout ça, d'un point de vue méthodologique, ça pose la question du choix des modèles d'analyse qui vont permettre, qui seront appropriés et qui vont permettre de rendre compte de ces situations. Là, on va passer dans la partie méthodologie, après le cadre théorique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme outil d'analyse, de représentation et d'analyse pour rendre compte de ces situations d'échange entre élèves. On imagine, par exemple, un groupe de deux ou trois élèves d'école primaire qui sont en train d'utiliser une tablette. Comment rendre compte de ce qui se passe entre eux à ce moment-là, au moment de l'utilisation? Et puis, comment rendre compte aussi de l'évolution des échanges, parce que c'est ça qui nous intéresse. Comment, petit à petit, qu'est-ce qu'on voit apparaître par le processus des échanges, sur justement le jeu de l'argumentation, de la contre-argumentation, quelle est l'évolution du processus. Alors, au niveau du cadre théorique, mais plutôt, en l'occurrence, c'est plutôt des instruments que nous, on va utiliser en tant que chercheurs, on a fait appel à un modèle qui a été proposé par un chercheur qui s'appelle Pierre Rabardel dans le domaine de ce qu'on appelle l'ergonomie cognitive. C'est un modèle qui s'appelle le SAI, le modèle des situations d'activité instrumentée. Et en fait, Rabardel, il s'est intéressé à la question de l'usage, de l'utilisation des instruments, pas seulement dans le champ éducatif, mais dans le champ de la formation plus généralement. Et puis, finalement, ce qu'il propose, c'est l'idée suivante, et c'est là-dessus, par rapport à ça qu'on s'inscrit, c'est qu'il considère qu'un instrument, finalement, c'est deux choses. C'est un objet, c'est un objet hybride. C'est un instrument, c'est un artefact, c'est-à-dire un objet qui est neutre, qui est conçu par un concepteur. Et puis, cet artefact, donc c'est un objet construit par l'homme, qui, dans sa dimension neutre, il va s'accompagner de chaînes d'action, de chaînes d'utilisation. C'est-à-dire, c'est l'idée selon laquelle il va falloir, on va dissocier l'instrument qu'on utilise, que ce soit une tablette, un ordinateur ou une machine dans une usine, on va dissocier l'instrument, l'objet, l'artefact, de l'objet vers lequel est tournée l'utilisation réalisée à l'aide de cet instrument. En gros, ce que ça veut dire, c'est que c'est l'idée selon laquelle il n'y a pas d'usage prédéfini. Alors, il y en a un qui est pensé par le concepteur, mais à tout instrument, il y a toute une gamme d'usages qui va être fonction de l'utilisateur qui utilise cet instrument. C'est-à-dire, il y a différentes façons, il y a différentes possibilités d'utiliser un instrument. Et entre autres choses, on a mis une vignette pour illustrer ça. Ça permet de prendre en compte tous les moyens, toutes les nouvelles façons, parfois innovantes ou imprévisibles, d'utiliser les objets, et parfois selon des modalités qui sont un peu contre-productives. Et souvent, c'est vrai que, notamment par exemple pour les tablettes tactiles, c'est un objet qui finalement a été mis sur le marché sans qu'on sache vraiment pourquoi il était là. C'est-à-dire que les usages sont venus avec l'objet. Hein, ils n'ont pas été pensés par avance. Et du coup, bah, les constructeurs se sont intéressés parfois à des formes innovantes d'usage qui étaient mises en place par les utilisateurs et qui leur ont permis de repenser ou d'ajouter de nouvelles fonctionnalités aux objets. Hein. Donc il y a toujours cet aller-retour qui se fait entre les deux. Voilà. Donc il y a cette idée-là qui est importante. Et du coup, le modèle sur lequel on s'est appuyé, bah, c'est un modèle que moi j'avais contribué à développer, j'avais développé dans le cadre d'un travail précédent. Où je m'étais intéressé, c'était dans un musée de sciences, à la Cité des Enfants, pour ceux qui connaissent, et je m'étais intéressé à la façon dont les parents soutenaient l'activité des enfants dans des situations d'utilisation de dispositifs interactifs. Alors là, on voit une mère et son enfant qui utilisent un dispositif qui s'appelait le mélanger les couleurs. Et je me suis intéressé à ça. Et du coup, bah, j'ai réutilisé, en fait, en quelque sorte, j'ai réutilisé le modèle donc, que je vous ai présenté avant, mais en y ajoutant les deux usagers principaux, c'est-à-dire l'enfant et puis l'adulte tuteur. Mais vous voyez là encore, il y a une séparation entre l'environnement informatique et puis ce vers quoi est tourné l'environnement, c'est-à-dire la diffusion d'un savoir. Hein. Et ça a permis, entre autres choses, eh bien, de distinguer effectivement l'objet, l'instrument, de la façon dont est utilisé cet instrument par les visiteurs. Et alors, ce modèle, ce n'est pas seulement un modèle de représentation d'une situation, mais c'est aussi un modèle d'analyse. Souvent, les modèles, comme celui que j'ai montré avant, sont des modèles de représentation. Ça permet, de symboliser une situation. Mais ici, c'est aussi un modèle d'analyse. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait avec Laetitia. C'est-à-dire que, ici, ce modèle qui est inspiré du précédent, en fait, il va permettre de rendre compte de l'utilisation des tablettes, Laetitia vous en parlera, par des groupes d'enfants. Hein, il y a une étude, j'en dis pas trop, mais il y a une étude qui s'est passée dans une école primaire où les enfants, par groupe de deux ou trois, avaient des tablettes tactiles et donc on a essayé de voir ce qui se passait entre eux, hein, au moment de l'utilisation. Et du coup, bah, on a réutilisé le modèle que je vous ai présenté avant, et puis on a essayé d'imaginer les scénarios possibles d'utilisation, et à chaque fois, c'est-à-dire ce vers quoi étaient tournés les échanges qui étaient réalisés entre les élèves. Alors, on a imaginé qu'il pouvait y avoir en gros 5 types de scénarios possibles d'utilisation. Le premier, c'est ce qu'on a appelé l'interactivité fonctionnelle, c'est-à-dire c'est les situations qui sont complètement détachés du savoir en jeu, mais qui portent réellement sur le fonctionnement de l'objet. Hein, c'est-à-dire sur le, indépendamment de tout contenu de savoir. Hein, c'est ça ?
C'est du non-verbal.
C'est du non-verbal, voilà. Hein. C'est du non-verbal, c'est-à-dire qu'on voit les enfants qui, par exemple, appuient sur l'écran tactile, mais il ne se passe rien sur le plan verbal. La deuxième situation, c'est... alors la deuxième et la troisième, parce qu'elles sont un peu liées. La première, c'est l'instrument, la tablette tactile, en tant qu'objet de l'interaction, c'est-à-dire qu'on discute à propos de l'objet. Alors que la troisième situation, c'est l'instrument qui va médiatiser l'échange. Hein. C'est-à-dire que dans un premier cas, on parle de l'objet, par exemple, mais où est-ce qu'il faut appuyer, comment on fait pour zoomer ou dézoomer, etc. Hein. C'est-à-dire qu'on s'interroge sur le fonctionnement même de l'objet, c'est lui qui est destiné l'échange. Alors que dans la troisième situation, il sert à faire vivre l'interaction. C'est-à-dire que, par exemple, le fait de prendre une photo avec une tablette tactile, bah, on va s'interroger sur ce qu'on prend comme photo. C'est-à-dire que mais on utilise bien l'objet pour prendre la photo, mais l'échange ne se fait pas à propos de l'objet, mais de ce à quoi il sert. Vous voyez la différence ? Hein ? C'est-à-dire que ici, c'est vraiment l'instrument utilisé vraiment comme média. Hein, il médiatise l'activité, alors que là, il est l'objet de l'activité. La quatrième situation, c'est des interactions, cette fois, qui portent directement sur le contenu, sur les savoirs en jeu. Ici, Laetitia vous en parlera, c'était à propos d'un projet culturel. Et c'est-à-dire qu'on va, ici, ce sont des interactions qui sont directement liées au contenu. Et enfin, le cinquième scénario, c'est uniquement des questions de régulation. C'est-à-dire que les enfants, par exemple, vont échanger, mais indépendamment des savoirs et indépendamment de l'objet. C'est par exemple des enfants qui disent à un moment donné oh, « ben, je suis fatigué », par exemple, ou « j'en ai marre », ou « ceci ou cela ». C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec le reste, en fait. On pourrait dire que c'est une catégorie « autre », ici. D'accord ? Alors, au final, ça, c'est une autre façon de représenter les choses. Ces cinq catégories, Parce qu'on va voir que ça nous a servi, Laetitia vous en parlera, à rendre compte des interactions, mais aussi de la densité de la collaboration entre les élèves et puis aussi de l'autonomie. Eh bien, ces cinq catégories, finalement, eh bien, selon le cas, elles vont mobiliser le savoir ou pas, elles vont mobiliser l'artefact ou pas, et elles vont mettre en jeu des interactions soit entre élèves et adultes. Hein. Et on retrouve bien, alors je ne rentre pas dans le détail, mais on retrouve bien ici les flèches qui finalement correspondent. Vous voyez, dans ce carré, donc avec chacun des pôles, on peut dire que les pôles sont plus ou moins, on pourrait imaginer des couleurs, hein, chacun des sommets du carré sont activés ou pas en fonction du type de scénario qu'on a utilisé. Vous voyez, hein. Donc la situation la plus globale, la plus complète, on pourrait dire, c'est quand les enfants vont utiliser l'objet pour parler des contenus de savoir avec l'étayage de l'adulte. Là, finalement, on a les quatre sommets du losange qui sont activés, c'est-à-dire que tous les acteurs de l'interaction sont mobilisés dans l'échange. Hein? Et donc, ça veut dire qu'on a des situations qui vont être plus ou moins complètes, qui vont être plus ou moins accomplies selon les pôles du carré qui vont être mobilisés. D'accord? Et à partir de là, et là, je vais laisser la parole à Laetitia, eh bien, on a fait ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a filmé l'activité des enfants, on a transcrit l'activité des enfants, et puis ensuite, on a fait un codage à la base de ces quatre catégories possibles pour rendre compte de la dynamique interactionnelle, on pourrait dire, et de l'évolution de cette dynamique interactionnelle.
À partir de 2011, dans le cadre d'un projet qui a été initié par la cellule TIS du rectorat de Paris. Donc, quand nous avons commencé à travailler avec eux, l'idée était de regrouper les différentes tablettes PC qui avaient été achetées par le rectorat. Donc, pour information, c'était des tablettes PC de type Asus, donc avec un écran tactile auquel on pouvait ajouter un clavier. Donc, quand nous sommes intervenus dans ce projet, un lot de 11 tablettes avait été proposé à un enseignant de CM2 volontaire qui voulait les utiliser dans le cadre d'un projet culturel de découverte de la ville de Paris. Donc l'idée, c'était de sortir de la classe avec ces tablettes, donc à trois moments différents dans l'année, donc sur trois lieux différents de la ville de Paris, le Palais Royal, le Faubourg Saint-Antoine et la Bastille. Donc les enfants étaient regroupés en groupes de 2-3 élèves. Chaque groupe avait à sa disposition une tablette. Donc l'enseignant avait chargé sur les tablettes au départ un certain nombre de contenus. Alors il y avait du contenu imagé, donc avec des photos des lieux à l'époque, comme cette photo ici. Un contenu également textuel avec un certain nombre d'informations théoriques sur les lieux à l'époque et les événements historiques marquants pour chaque lieu. Et un certain nombre également d'exercices et de questions auxquelles les élèves devaient répondre en se basant à la fois sur le contenu théorique qui avait été chargé sur les tablettes, mais également sur les observations qu'ils pouvaient réaliser in situ. Donc, nous, on est parti de cette situation-là. On a suivi un groupe d'élèves sur deux séances, la première qui se passait en janvier, la seconde trois mois plus tard, donc en avril, sur un lieu différent. Donc, je précise que ce n'était pas la première fois que les enfants utilisaient les tablettes, hein, au cours de cette première séance. L'enseignant avait pris soin de familiariser les élèves avec l'utilisation de la tablette en amont, dans la classe en fait. Donc les enfants connaissaient un petit peu la tablette, les différentes applications, les possibilités. Et donc nous, ce qui nous a intéressés par rapport à la méthodologie qu'on vous a présentée juste avant, c'était de voir ce qui se passait en termes d'interaction. C'est-à-dire, est-ce que c'était des situations qui généraient déjà des interactions entre les élèves, on les fait travailler en groupe, donc est-ce que cette situation instrumentée permet de générer des interactions entre les élèves, et quel était le contenu de ces interactions? Donc, comme vous le disait François-Xavier, il y a des interactions qui sont plus intéressantes que d'autres. Il y a des interactions autour du savoir, donc elles sont intéressantes. Les interactions autour du savoir et médiées par l'instrument, ça c'est l'idéal. Et puis on a aussi tout un tas d'interactions qui sont un petit peu moins intéressantes, basées sur l'outil en tant que tel, sur sa manipulation, son fonctionnement. Donc là, d'un point de vue pédagogique, c'est un petit peu moins intéressant. Donc, ce qui nous a vraiment motivés dans ce projet, c'était un vrai projet, comme on dit, écologique. Hein. On n'est pas intervenu en tant que chercheur pour monter une expé, peut-être un petit peu déconnecté de ce qui se passe vraiment dans les classes. Et on a essayé de suivre ce groupe sur ces deux séances pour voir un petit peu comment évoluaient les interactions, à la fois les interactions élèves-élèves, mais également les interactions élèves-apprenants. Élèves, pardon, enseignants. Donc, on a filmé un petit peu ce qui se passait au sein de ce groupe, et donc vous parliez un petit peu de notre méthodologie. L'idée, c'était donc de classer chacune de ces interactions en fonction des 5 catégories qu'on vous a présentées tout à l'heure. Donc, pour ce faire, on utilise un logiciel qui s'appelle Elan, qui permet vraiment de découper les choses assez finement. Donc, on a, grâce à ce logiciel, la vidéo, donc l'image, le son. Et ensuite, on peut classer chacune des interventions orales en indiquant qui l'a générée, à quel moment elle a eu lieu, combien de temps elle a duré et quel était son contenu. Donc, avec à chaque fois ce que chaque enfant ou ce que l'enseignant avait pu dire. Donc à partir de ce premier traitement des interactions, on génère des tableaux Excel qui ressemblent à celui-ci. Et c'est vraiment à partir de ces tableaux Excel ensuite qu'on travaille. Donc ici, on a l'ensemble des interactions qui ont pu avoir lieu au cours de ces séances pédagogiques. Donc à chaque fois, on sait à quel moment ils ont eu lieu, combien de temps elles ont duré. Donc ici, on a toutes ces informations chiffrées. Donc on peut dire combien il y a eu d'interactions, si elles étaient nombreuses, combien de temps elles ont duré. On peut savoir qui à parler, donc ça peut être intéressant, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure parce que là on est sur un fonctionnement en petit groupe de 2 ou 3 élèves, mais on a vu que systématiquement ces interactions elles se faisaient en binôme et qu'il y avait souvent un troisième élève qui était un petit peu en retrait, donc c'est intéressant aussi de savoir qui dit quoi, est-ce que c'est l'élève, est-ce que c'est l'enseignant et puis est-ce que ce sont toujours les mêmes élèves qui interviennent. Et puis, bien sûr, ici, on a notre classification. On retrouve nos 4 catégories. Donc, ici, pour les interactions entre pairs, entre élèves. Et ici, nos 4 catégories pour les interactions entre l'élève et l'enseignant. Voilà, donc, voilà, globalement, pour vous parler de notre méthodologie. Donc, vous voyez qu'on va assez finement dans les détails. Et on essaie, bien sûr, de quantifier les interactions, mais aussi de les classer, puisqu'on suppose qu'elles n'ont pas toutes le même intérêt du point de vue pédagogique. Donc, on n'avait pas spécialement envie de vous parler du coup des résultats, plutôt de notre méthodologie, mais si vous voulez, je pourrais en dire un mot à la fin pendant les questions. On voulait surtout vous parler de la manière dont on s'y prenait pour étudier justement l'intérêt, l'apport que pouvait avoir l'utilisation de ces tablettes tactiles dans les classes. Donc, vous voyez qu'avec notre méthodologie, on peut à la fois s'intéresser à ce qui se passe entre les élèves et d'un point de vue longitudinal, c'est-à-dire de voir si ces interactions sont plus nombreuses et si elles sont plus intéressantes, c'est-à-dire si ce sont des interactions qui portent sur le contenu et médiées par l'instrument. Et puis, on s'est également intéressé à la posture de l'enseignant, aux interactions, à ses interventions, donc également d'un point de vue longitudinal et par rapport également au contenu. En se demandant si les enseignants intervenaient beaucoup, s'ils intervenaient vraiment pour des histoires de régulation, de manipulation d'outils, ou pour vraiment parler des contenus. Et comme ça, on peut également regarder ce qui se passe dans le temps. Ça nous a amené à nous poser la question de l'autonomie des élèves. Hein. On a réalisé un certain nombre de calculs où on mettait en rapport le temps d'intervention orale des enseignants par rapport à la durée totale de la séance, qui nous permet d'apprécier un petit peu l'autonomie des élèves dans cette situation nouvelle basée sur l'utilisation d'un outil qu'ils ne maîtrisent peut-être pas encore forcément. Donc voilà, c'est une méthodologie qui n'est pas forcément évidente à mettre en œuvre parce qu'elle est un petit peu lourde, mais elle donne des résultats intéressants. Et c'est vrai qu'on sort d'une présentation un peu, on va dire, basique de la situation. On essaie vraiment de voir ce qui se joue. Donc, par rapport à ces interactions entre élèves et enseignants, ça nous a donné envie d'aller voir un petit peu plus loin ce qui se passait, hein, voir un petit peu comment les enseignants intervenaient dans ces situations où l'activité est instrumentée. Et donc, pour aller un petit peu plus loin, je vais vous présenter une autre recherche qui a été menée l'année suivante, toujours dans le cadre de notre collaboration avec le rectorat de Paris, où cette fois-ci, on s'est davantage intéressé à ce qui se passait du point de vue de l'enseignant, à ses interventions auprès des élèves, et notamment par rapport à la posture d'étayage qu'il utilisait en fonction de la situation, si elle était instrumentée ou non. Donc, je vais vous en dire 2 mots. Donc, juste concernant cet aspect processus d'étayage, j'en dis 2 mots pour ceux qui ne maîtrisent pas trop le sujet. Donc, bon, c'est assez simple, mais c'est en quelques mots vous présenter un petit peu de quoi ça parle. Donc, l'idée, c'est que dans ces activités un petit peu complexes où les enfants vont maîtriser, peut-être vont devoir travailler des concepts qu'ils ne maîtrisent pas forcément avec un outil qui est peut-être aussi nouveau pour eux, l'enseignant va étayer l'activité, va intervenir à différents moments pour ramener les élèves à la réalisation effective de la tâche. Donc, il y a différents processus d'étayage. comme le processus d'enrôlement, on va motiver l'enfant à entrer dans cette activité qui peut lui paraître peut-être complexe au départ. Un autre processus d'étayage, c'est la réduction des degrés de liberté. Donc l'idée est peut-être de découper la tâche en petits tronçons, proposer des tâches simples, c'est parfois plus simple à réaliser qu'une grosse tâche complexe qui peut être difficile à appréhender pour les apprenants au départ. Un autre processus d'étayage, le maintien de l'orientation par rapport à l'objectif principal, c'est-à-dire guider les élèves, leur rappeler l'objectif de la tâche et vérifier qu'ils ont bien compris les buts et qu'ils maintiennent ces objectifs tout au long de la tâche. La signalisation des caractéristiques déterminantes, c'est-à-dire de quoi j'ai besoin pour arriver au bout de la tâche, les moyens qu'on va mettre à leur disposition pour qu'ils arrivent au bout de cet exercice. Le contrôle de la frustration, donc c'est aussi lié à ces aspects plutôt cognitifs, hein, motivationnels. Est-ce que les enfants ne se découragent pas? Comment est-ce qu'on fait pour garder l'intérêt et l'enthousiasme jusqu'au bout de l'activité? Et enfin, un dernier processus d'étayage qui serait la démonstration, c'est-à-dire que l'enseignant donne un exemple pour que l'enfant puisse ensuite s'appuyer sur cet exemple, puisse imiter ce que l'enseignant a fait pour arriver au bout de la tâche également. Donc voilà, ce qui nous a intéressé, c'était de voir comment est-ce que l'enseignant intervenait dans les situations, en fonction qu'elles étaient instrumentées ou non, comment ils intervenaient du point de vue de l'étayage, voir si les processus utilisés étaient les mêmes, si l'enseignant intervenait finalement au même moment dans l'activité. Qu'est-ce que ça changeait d'utiliser un support numérique plutôt qu'un support traditionnel papier-crayon. Donc, on a essayé de tester un petit peu tout ça. L'année d'après, les tablettes avaient été données cette fois-ci à un enseignant de CLIN, donc un enseignant qui travaillait auprès d'élèves non francophones, donc des enfants souvent nouvellement arrivés en France qui ne maîtrisaient pas la langue. Donc, il ne disposait pas d'un grand nombre de tablettes, ce qui fait qu'en fait, il proposait les mêmes activités, mais parfois avec la tablette et puis parfois sans la tablette. Donc, il formait des groupes d'élèves, des groupes travaillaient sur un support traditionnel papier-crayon, et un autre groupe réalisait la même activité, mais à l'aide de la tablette. Donc, on est parti, nous, on a observé une activité bien précise, qui était une activité sur les châteaux du pays Qatar. Donc, les enfants pouvaient avoir accès à un contenu, donc, ou qui était téléchargé sur la tablette, ou un contenu papier, devaient se servir de ce contenu pour ensuite élaborer un livret papier ou un e-book, en se servant toujours de la tablette. Donc, ce qui nous a intéressé, c'était de voir comment est-ce que l'enseignant intervenait auprès de ces deux groupes d'élèves, donc des élèves. On avait fait des groupes homogènes, hein, même âge, même sexe, même niveau de langage. Et donc même activité, mais support différent, et on a regardé si les interventions de l'enseignant différaient en fonction du support. Donc voilà, je vous présente globalement les grandes tendances qu'on a pu observer. Donc, quel que soit finalement le type de support, papier ou tablette, on a bien sûr un enseignant qui intervient, qui propose des explications et des aides tout au long de l'apprentissage, mais les interventions, les étayages proposés diffèrent. Ce ne sont pas les mêmes processus qui sont mis en œuvre, ils n'apparaissent pas au même moment dans l'activité. Donc schématiquement, ce qu'on a observé, donc, ici j'ai repris quatre des processus d'étayage que je vous ai présentés tout à l'heure, donc l'idée c'est de regarder un petit peu ces interventions à la lumière des processus d'étayage que je vous ai présentés juste avant. Donc concernant le roulement dans l'activité, c'est-à-dire l'entrée dans l'activité, on s'est rendu compte que l'enseignant n'intervenait pas de la même manière en fonction de la situation. On a des enfants beaucoup plus motivés, ceux qui utilisaient la tablette numérique, sont rentrés beaucoup plus facilement dans l'activité, de façon très autonome, très spontanée. Ils se sont engagés dans l'activité, ils ont commencé à lire les contenus, ils sont allés les récupérer sur la tablette. Donc vraiment, ils se sont lancés assez facilement dans l'activité. Du coup, l'enseignant peut intervenir dans cette situation. À l'inverse, les enfants qui réalisaient du coup la même tâche avec le même contenu, mais sur papier, ont eu un petit peu plus de mal à entrer dans l'activité. Et là, l'enseignant est intervenu beaucoup plus souvent pour les engager à lire les textes et à répondre aux différentes questions qui leur étaient posées. Donc par rapport à ces aspects, simplification de la tâche, réduction des degrés de liberté, pareil, on n'observe pas d'intervention de ce point de vue-là de la part de l'enseignant lorsque l'apprentissage se fait la situation est basée sur la tablette numérique. Les élèves ne sollicitent pas l'enseignant, Donc l'enseignant est assez peu intervenu auprès de ce groupe d'élèves. Par contre, au début de l'activité, les élèves qui travaillaient sur papier, qui avaient déjà eu du mal à rentrer dans l'activité, avaient besoin d'une aide supplémentaire. Donc ils ont posé beaucoup de questions, l'enseignant est intervenu pour reformuler la consigne, pour rappeler les différentes étapes, pour rappeler les objectifs. Donc sur ce groupe papier, il est beaucoup intervenu au départ, pour les motiver à entrer dans l'activité, pour leur rappeler les objectifs, les étapes, ce qu'il fallait faire, comment il fallait s'y prendre, alors que le groupe qui travaillait sur les tablettes numériques s'était lancé beaucoup plus facilement. Autre différence qu'on a pu observer par rapport aux interventions des enseignants, c'est le maintien de l'orientation. C'est-à-dire que autant les élèves qui travaillaient sur tablette se sont lancés très vite dans l'activité, autant au bout de quelques minutes, voire quelques heures, parce que c'est une séance qui a duré sur plusieurs heures, plusieurs jours, on commençait à se perdre un petit peu. Donc il y avait beaucoup d'applications, il y avait beaucoup de choses, et donc ils étaient très motivés, ils voulaient faire plein de choses. Et puis, ils se sont un petit peu perdus. Donc, l'enseignant a dû intervenir pour recadrer un petit peu l'activité, rappeler ce dont ils avaient besoin, ce qui n'était pas absolument nécessaire. Donc, c'est vrai que le support, là, a un petit peu perdu les élèves qui avaient commencé un petit peu à s'éparpiller. Alors que le groupe papier, voilà, une fois qu'ils étaient lancés, qu'ils avaient compris les objectifs, les étapes, étaient en terrain connu. Et du coup, dans ce cadre-là, l'enseignant est beaucoup moins intervenu. Et donc pour finir, une dernière différence qu'on a observée, on en a déjà un petit peu parlé ce matin sur ces aspects cognitifs et engagement dans l'activité, motivation, c'est que voilà, ça s'est senti dès le départ, et c'est des choses qu'on a pu observer tout au long de l'activité, c'est que ces élèves qui travaillaient sur tablette, finalement, ont continué à être motivés jusqu'au bout. Donc il n'y a jamais vraiment eu de phase de découragement où l'enseignant a dû intervenir pour dire, voilà, pour remotiver, pour dire que c'était bien, qu'on était sur la bonne voie, etc. Ça a été le cas pour les élèves qui travaillaient sur papier. Il y a eu des phases où ils n'avaient plus trop envie, où l'enseignant a dû un petit peu intervenir pour remotiver les troupes. Donc on a vu que sur cette situation du coup, identique, avec des élèves, des groupes homogènes, une activité identique, des objectifs identiques, mais avec un support différent, on a effectivement les postures de l'enseignant qui diffèrent, des interventions qui sont différentes et des processus d'étayage qui ne sont pas les mêmes et qui ne sont pas mis en œuvre au même moment. Voilà, donc c'était une piste qui nous a semblé intéressante à explorer. Bon, là, on travaille sur un enseignant, quelques élèves, mais je pense que c'est quelque chose qu'on va travailler un petit peu plus par la suite. Je laisse... François-Xavier, fini ? Tu fais une petite synthèse ?
Alors déjà une synthèse des études, donc de ce qu'on a, des résultats en fait, hein, qui ont déjà été avancés par Laetitia, et puis ensuite plutôt une synthèse de nous, de notre posture, parce qu'elle peut questionner peut-être, hein, de notre posture en tant que chercheur. Et voilà. Ce qu'on peut dire dans la première étude, effectivement, hein, c'est que, en termes d'appropriation, parce que c'est une question qui nous interpelle, c'est celle de l'appropriation instrumentée, c'est-à-dire que le passage finalement d'une activité où l'instrument est une espèce de et pas réellement intégré, c'est une espèce de béquille, à une activité où vraiment l'instrument fait partie en tant que tel de l'activité. On voit que les élèves, hein, ont une utilisation à des fins très, très, très cadrées, très spécifiques, hein, des instruments. Ils utilisent les tablettes pour des finalités assez, assez précises. On voit que très rapidement, ils s'affranchissent, et ça on le voit justement, c'est un des résultats qu'on est capable pour le coup de mettre en avant, c'est qu'on voit qu'il y a une évolution en termes d'autonomie. Hein, c'est-à-dire qu'ils s'affranchissent entre les deux études, ils s'affranchissent de l'aide que pourra apporter l'enseignant par rapport à l'utilisation, aux aspects fonctionnels de l'activité. C'est-à-dire que très vite, ils ont compris comment ça fonctionne. Hein, ça, c'est quelque chose qui est très présent. Alors, on en a l'intuition, hein, quand on voit des fois des très jeunes enfants qui utilisent parfaitement des tablettes, mais ça reste une intuition. Là, justement, grâce à l'analyse qu'on en a faite, on peut montrer qu'effectivement, en termes de pourcentage par rapport à la répartition de l'activité, on voit que tout ce qui est lié à la compréhension du fonctionnement diminue entre la première et la seconde étude. C'est-à-dire que l'attention des enfants est beaucoup moins portée sur cet aspect-là. Et puis, effectivement, donc il y a un gain en autonomie par rapport à l'enseignant. Dans l'étude effectivement numéro 2, comme le disait Laetitia, ben, on voit que en fait, l'intervention de l'enseignant, elle se fait dans les deux cas, mais pour des choses différentes. Et ça, la liste qui a été proposée par Brunner, hein, il avait fait une expérience Princept à ce sujet-là, sur l'étayage, hein, et la répartition de l'étayage pour soutenir une activité, eh ben on voit que l'enseignant n'intervient pas pour faire les mêmes choses selon que l'activité est instrumentée ou pas. Il est beaucoup plus dans une posture de régulation de l'activité, de maintenance de l'activité, c'est-à-dire qu'il est plutôt en retrait, mais il doit être quand même présent quand l'activité est instrumentée, donc en l'occurrence avec des tablettes. Alors que, c'est-à-dire qu'il suit l'activité, mais un peu en arrière-plan, quoi. Alors que dans le cas d'un apprentissage non instrumenté, c'est-à-dire papier-crayon, eh bien, pour le coup, l'enseignant va être beaucoup plus, c'est lui qui va guider, c'est lui qui va avoir plutôt une posture de soutien, il va guider les enfants dans leur activité. Alors, par rapport nous, cette fois, en tant que chercheurs, hein, les limites de notre travail, ben, on le voit bien, Laetitia l'a souligné, c'est qu'on est dans une approche très qualitative, hein, des situations. Donc forcément, on travaille sur des effectifs qui sont très limités, qui sont restreints, et qui nous interdisent de passer à la généralisation. C'est-à-dire que nous, on peut vous dire, voilà, là, ça s'est passé comme ça, dans ces conditions-là, avec ce type d'élèves, ce type d'enseignants, etc. Mais on ne pourra pas vous dire ça va se passer comme ça tout le temps. On ne peut pas dire ça. Hein, on n'est pas du tout dans une approche quantitative, mais beaucoup plus qualitative. Au niveau du caractère longitudinal, nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment les choses évoluent sur le long terme. Hein, comment le côté expérimental, où on vient dans une classe, on met en place une expérience et puis on s'en va, ce n'est pas nous notre démarche. Nous, on est plutôt dans quelque chose d'effectivement écologique et du coup de longitudinal. C'est-à-dire qu'on est intéressé par la façon dont les choses évoluent au fil du temps. Et quand je dis que ça a renforcé, c'est que, bah, notamment dans la première recherche, on a eu l'occasion de voir les élèves utiliser les tablettes seulement deux fois. L'idéal, ça aurait été de les voir, je ne sais pas, enfin, au moins 3, 4, 5 fois pour voir véritablement l'évolution. Hein, donc, c'est pour ça qu'on a mis caractère longitudinal à renforcer. Et puis, vous l'avez vu, la méthodologie, elle est quand même assez lourde. C'est-à-dire qu'il faut filmer, il faut transcrire, il faut coder. Donc c'est en ce sens qu'on est vraiment dans du qualitatif. Hein. C'est quelque chose, c'est beaucoup plus lourd que par exemple, de passer des questionnaires à des enfants ou à des enseignants, puis ensuite des QCM, et puis ensuite de récupérer tout ça. Où là, effectivement, on peut s'intéresser à des populations beaucoup plus importantes en termes d'effectifs. Mais là, vu tout ce que ça met en place, bah forcément, enfin, tout ça est lié. C'est-à-dire qu'on est sur des échantillons très restreints. Par rapport aux intérêts, alors, on est dans une posture, on pourrait dire, originale, dans le sens où, même qui peut être un peu déroutante. C'est-à-dire qu'on ne vient pas en vous disant, voilà, avec des tablettes, ça et ça, on peut le faire mieux, et ça et ça, on le fait moins bien, etc. On n'est pas du tout dans cette posture-là. Nous, ce à quoi on s'intéresse, c'est comment les choses se font, finalement. Hein, c'est-à-dire, à la fois du côté des élèves, qu'est-ce que ça change en termes, on l'a dit, d'interaction, mais comment elles se font aussi au niveau de l'enseignant. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça suppose comme changement en termes d'intervention auprès des élèves. Mais c'est vrai qu'on n'est pas à dire, bah voilà, avec des tablettes, les enfants vont ou pas être plus performants. Vous l'avez compris, hein, je ne vais pas le répéter, mais ce n'est pas notre posture, quoi. On n'est pas pour dire si c'est mieux ou pas avec ou sans tablette. On peut, cela étant, en termes d'apport didactique, on a vu c'était la première étude, qu'effectivement, on peut quand même supposer que, mais là, on ne le prouve pas, mais en tout cas, on a l'intuition que, effectivement, l'utilisation des tablettes dans ce type de situation, bah, effectivement, par le regain de collaboration que ça permet de mettre en place entre les élèves, eh bien, ça participe finalement à la construction des connaissances, puisque c'est notre postulat à la base. Hein. C'est-à-dire qu'en termes d'échanges, la qualité des échanges entre les enfants et puis aussi la quantité d'échanges liés au savoir en jeu, et on voit qu'on a vu, enfin, on a parlé très rapidement, mais il y a une évolution qui va dans ce sens-là, c'est-à-dire que l'activité dans la deuxième étude est beaucoup plus tournée vers les savoirs qu'elle ne l'est, dans la première étude, l'activité des enfants au cours de la deuxième utilisation est beaucoup plus tournée vers les savoirs qu'elle ne l'est dans la première situation. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se fait dans le bon sens. Et là, bah, c'est quelque chose que j'ai déjà dit, c'est-à-dire que la question des apprentissages se pose, c'est-à-dire qu'on, là encore, on ne vous dit pas c'est mieux avec ou sans, mais on peut imaginer que ça peut être mieux dans certaines situations. Ce serait quelque chose à creuser. Et je voulais juste revenir sur ce dernier point, c'est-à-dire l'approche écologique, c'est effectivement, nous, c'est aussi un choix de notre part. C'est-à-dire qu'on ne crée pas une expérience de toute pièce pour voir si ça fonctionne mieux ou pas sans tablette, ça pourrait être le cas. C'est-à-dire qu'on fait faire des activités à des enfants, certains groupes avec tablette, d'autres groupes sans tablette, et puis on fait des pré-tests et des post-tests, c'est assez classique, puis on regarde l'évolution et quelle est la meilleure évolution selon que c'est instrumenté ou pas. Non, nous, on est dans une approche écologique, c'est-à-dire qu'on respecte la vie de le cours de la vie de la classe, c'est-à-dire qu'on voit comment ça se passe avec toutes les contraintes qui sont celles de la classe. C'est-à-dire que nous, les enfants qu'on a filmés ne sont pas des enfants qui sont triés sur le volet. On prend les enfants tout venant avec les contraintes de la vie de la classe, etc. Ce qui rend aussi les choses plus difficiles, parce que des fois, on a des enfants qui sont absents. Enfin bon, du coup, c'est une posture qui est difficile parfois à tenir, hein, parce qu'il y a les aléas de la vie de la classe qui font que parfois, ça ne se passe pas comme on voudrait. C'est la différence entre ça et puis une posture plus expérimentale. Voilà, je vais m'arrêter ici. Merci.